L'after hour scientifique.
C'est goûtu, hein. Ça a du retour.
La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
Avec bonne santé, les deux.
Bienvenue, Dominique.
Le sport, quel sujet bien vaste. Si je vous dis sport, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Est-ce le frisson du dépassement qui vient vous caresser le dos après une bonne séance à la salle? Est-ce que cela vous évoque plutôt les prouveuses et prouveurs que vous croisez le dimanche en jogging pendant que vous rentrez arraché de boîte à 6h du matin? Est-ce un joyeux souvenir d'enfance ou plutôt le traumatisme d'avoir toujours été choisi en dernier quand il fallait faire les équipes à l'école? Il me paraît que le sport, c'est quelque chose qui divise autant qu'il fédère. Et quand on voit la myriade de sports qui existent, ce n'est finalement pas une grande surprise. Danse, volley, escalade, rugby, boxe, gymnastique ou quidditch, on peut citer autant de sports que de ministres sous la 5ème République. Et pourquoi ce thème du sport aujourd'hui? Eh bien parce qu'on réalise cette émission à moitié entre sport et actualité. Si vous êtes sorti de votre grotte ce mois-ci, sans doute vous avez entendu parler des Jeux Olympiques d'hiver de Milano-Cortina. Mes excuses à mes ancêtres italiens pour la prononciation. Qui ont eu lieu du 6 au 22 février en Italie. Petit récap rapide, un bilan solide pour la France, 6e au tableau des pays, avec un jackpot de 23 médailles, dont 8 d'or, plus de 50% en provenance des biathlètes français. Au menu aujourd'hui, un panel d'élite pour animer la 56e édition de l'Happy Hour scientifique. Nous sommes nombreuses et nombreux ce soir, une véritable équipe de football, mais sans les salaires. Pour présenter notre PSG à tous, on commence par notre invité, et ce soir c'est Rémi Delafont. Bonsoir Rémi.
Bonsoir Thomas.
Rémi, tu es doctorant en sociologie du sport et du genre. C'est ta troisième année avec la Fédération Nationale Profession Sport et Loisirs et l'Institut National du Sport de l'Expertise de la Performance. Tu travailles avec les équipes encadrant la haute performance sportive. On en reparlera plus tard dans l'émission pendant l'interview. Et notre attaquant de ce soir, prêt à aller droit au but avec son interview, c'est justement Jocelyn.
Bonsoir tout le monde.
Nos zélés de ce soir pour déborder nos adversaires sans faire déborder un verre, Anaïs avec ses gorgées de science et Héloïse avec les shots à l'invité.
Salut à tous.
Bonsoir.
Lola et Anna sur le banc de touche pour l'instant, mais qui nous rejoindront pour la seconde mi-temps, respectivement pour une chronique sur les JO et pour le caps ou pas caps.
Bonsoir.
Jade, notre défenseuse, qui arrivera en troisième mi-temps pour une chronique sur le snowboard aux JO. Et enfin, notre gardienne du temps, Emma à la régie, avec Sarah et Elio, nos supporters légendaires. Mais bon, je vous ai fait attendre assez, j'ai la bouche sèche. Heureusement, c'est l'heure des gorgées de science. À toi, Anaïs.
Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça?
On commence avec une première gorgée pour le moins surprenante. Des chimpanzés du parc national de Kibale en Ouganda consommeraient de l'alcool. Oui, vous avez bien entendu. Une recherche publiée le 25 février dans la revue Biology Letters révèle que ces primates ingèrent des quantités suffisantes de fruits fermentés pour que des traces d'alcool soient détectées dans leurs urines. Une découverte qui relance les questions sur les origines évolutives de notre propre tolérance à l'alcool. On continue de boire une deuxième gorgée d'eau, bien évidemment, puisqu'en France, la météo a battu un nouveau record. La série de jours de pluie consécutifs s'est arrêtée lundi 23 février 2026, après 40 jours. Le précédent record datait de 2023, avec 32 jours d'affilée sous les précipitations. Un épisode marquant, symptomatique d'un climat de plus en plus instable. Continuons de boire, et pour notre santé maintenant, avec une avancée prometteuse. Un vaccin administré sous forme de spray nasal pourrait protéger contre la grippe, le rhume, le Covid-19 et d'autres maladies respiratoires. Publié dans la revue Science, l'étude montre qu'il offre chez la souris une protection d'au moins 3 mois contre plusieurs virus, bactéries et même certains allergènes. S'il s'avère efficace chez l'humain, ce pourrait être le premier vaccin universel contre les épidémies hivernales. Quatrième gorgée, en espérant que vous ayez toujours les pieds sur terre, puisque désormais, je vous invite à lever les yeux au ciel cette semaine. En effet, non pas un, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, non pas cinq, mais bien six planètes seront visibles et quasiment alignées dans le ciel nocturne autour du 28 février. Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune offriront un spectacle rare et accessible même sans matériel professionnel. On continue de vider son verre entre amis. Et justement, cet ami pourrait être bien différent de ce que vous pourriez imaginer. Je m'explique. Dans le métro parisien, une campagne publicitaire intrigue les passants. Des affiches minimalistes vantent un pendentif promettant de ne jamais laisser tomber vos plans. Derrière ce message, Friend.com, un dispositif d'intelligence artificielle conçu pour offrir une compagnie permanente. une IA qui fait particulièrement réagir. D'abord, les slogans laisseraient sous-entendre qu'un collier d'IA serait plus fiable que des amis ou un partenaire, une promesse jugée glauque et opportuniste pour de nombreux observateurs. Le fait qu'un micro, présenté comme toujours en train d'écouter, soit commercialisé sous l'étiquette d'un ami est perçu par certains comme un outil de surveillance déguisé. Côté culture, profitons d'une gorgée devant le documentaire Glacier enquête sur une disparition sorti le 24 février sur Arte.tv. Réalisé par Judith Rueff et Pierre-Olivier François, il explore les conséquences mondiales de la fonte des glaciers bien au-delà des seules régions de montagne. Une diffusion télé est prévue le 3 mars à 21h. Encore un petit coup pour célébrer un fait de société. En 2027, la Tour Eiffel inscrira 72 noms de femmes scientifiques au-dessus des 72 noms masculins déjà gravés sur la Tour Eiffel. Une mesure symbolique, forte, pour établir la parité sur ce monument emblématique et reconnaître enfin la place des femmes dans l'histoire des sciences. Enfin, ce mois de février, buvons un peu d'amour quand on tombe amoureux. Le cortex préfrontal, là où siège l'esprit critique, se met partiellement en veille. Testostérone, dopamine, ocytocine et vasopressine entrent en scène, intensifiant désir, plaisir et attachement. Mais après quelques mois, le sens critique revient, la fameuse lune de miel prend fin. Poursuivons notre verre puisque le mois de février a été gâté d'un vendredi 13 et deux heureux gagnants se sont partagés un jackpot de 13 millions d'euros. Une date qui revient, des gains importants et une impression troublante de répétition puisque là, rappelons-le, un tirage du vendredi 13 décembre 2024 proposait une cagnotte de 13 millions d'euros, elle aussi, cagnotte remportée. Mais maintenant, parlons mathématiques. Contrairement aux croyances, vos chances de gagner au loto restent strictement les mêmes. Le hasard, lui, il consulte pas le calendrier. Hein. En revanche, on recense en moyenne 2 à 3 fois plus de mises au loto un vendredi 13. Et les gains sont généralement plus importants, histoire de marquer toujours plus les esprits. Et pour finir son verre, rapprochons-nous du sujet de cette émission en se posant la question suivante. Est-il possible de skier sur une autre planète? Adrien, du média Technosciences, a tenté d'y répondre. Alors pour cela, faisons le tour de notre système solaire. La Lune ne possède pas de neige, mais une fine poussière rocheuse, rendant toute expérience de ski très différente, malgré la faible gravité. Mars semble plus adapté avec des calottes polaires, mais sa neige de glace carbonique se sublime immédiatement, empêchant toute descente contrôlée. Europe, recouverte de glace d'eau, présente une surface extrêmement dure et une faible gravité qui rendrait la glisse incontrôlable. Enfin, Pluton, avec ses glaces très froides et cassantes et sa gravité minime, offrirait une expérience instable, davantage une dérive qu'un véritable ski. Alors à moins de modifier drastiquement notre pratique de glisse, les Jeux olympiques d'hiver interplanétaires devront encore attendre un peu.
Merci Anaïs. En effet, on va peut-être devoir rester sur Terre pour l'instant, mais on aime rêver quand même. Parler d'espace, moi ça m'a un peu fait tourner la tête, donc est-ce qu'on se servirait pas quelques shots? Héloïse, je crois que c'est à toi, c'est l'heure des shots à l'invité.
Et oui, bon.
Pour commencer, on va...
J'explique juste avant de pouvoir lancer le jingle. Bon alors, j'imagine que tous nos auditeurs connaissent le principe des shots à l'invité, mais juste au cas où, je vous rappelle comment ça se passe. Donc Rémi, avant de commencer par l'interview pure et dure, on aimerait apprendre un peu à te connaître. J'ai donc préparé plein de petites questions pour toi, et tu as une minute pour répondre à un maximum de ces questions. T'es prêt? C'est parti.
Pour commencer, on va prendre un petit shooter du bar.
Alors, ou vous suivez votre intuition, ou vous vous dégonflez.
Et du coup, on trinque à la tienne.
C'est l'Happy Hour, qu'est-ce que tu commandes?
Une pinte.
Ton sport préféré?
Le tennis.
Le meilleur son pour faire du sport?
Un petit Rocky.
Le commentaire sexiste le plus absurde que tu as entendu sur un sportif ou une sportive?
Ah, j'en ai tellement, on pourra en reparler après.
Si tu pouvais passer une journée avec n'importe quel sportif ou sportive, ce serait qui?
J'aurais bien aimé rencontrer Rafa.
Tu regardes les JO d'hiver?
J'ai regardé les JO d'hiver.
C'est quoi l'épreuve que tu ne loupes jamais?
Le biathlon.
Si tu pouvais supprimer un stéréotype de genre dans le sport comme ça d'un coup, ce serait lequel? Pareil, il y en a trop. Plutôt sport en intérieur ou en extérieur?
En extérieur.
C'est quoi le métier le plus invisibilisé dans le sport selon toi?
Je peux y répondre?
Ouais.
Et alors, je vais me répéter, mais je crois qu'il y en a trop. Et c'est aussi un bon objet de m'en reparler. Mais j'en ai rencontré des étonnants que j'aurai le plaisir de vous partager.
Ça marche. Après cette belle mise en jambe par Héloïse, je pense que Rémi, vous êtes échauffé. Tu es échauffé pour l'interview, donc je pense qu'on peut commencer. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît?
Avec plaisir. Donc, Rémi, J'ai déjà la fierté d'annoncer mes origines réunionnaises. Donc je suis en carence de soleil depuis maintenant 3 ans, date à laquelle je suis arrivé à Paris pour débuter ma thèse en sociologie du sport. Donc voilà, j'ai 29 ans. Je l'espère, en dernière année de thèse.
On croise tous les doigts.
On croise tous les doigts.
Et quel est ton parcours ?
Un peu sinueux. J'ai été à La Réunion jusqu'à mes 18 ans, quand j'ai passé le bac. J'ai dû partir ensuite en métropole pour réaliser mes études, une école d'ingénieur d'abord, à Lyon. Et puis, l'envie de retrouver un peu la notion de sport que j'avais perdue. Donc j'ai arrêté en quatrième année, j'étais presque pas loin, mais finalement toujours assez loin, pour rejoindre STAPS, une formation STAPS, pour devenir professeur d'EPS. Chose que je suis devenu, puis j'ai expérimenté assez rapidement les premiers cours, dont le secondaire, qui était assez difficile, et je ne me voyais pas pouvoir réaliser avec un tel entrain tout ça toute ma vie. Donc je me suis recentré vers quelque chose que je ne connaissais pas trop, mais qui me plaisait beaucoup, qui était la sociologie du sport. Et à Lyon, donc, était proposé un master spécialisé en études sur le genre dans le champ sportif. Donc ce master-là, je l'ai suivi et il a pu me permettre de débuter une thèse en suivant en fin 2023.
Tu continues les cours, le sport, EPS ?
Non, alors là c'est à temps plein. Je continue de donner des cours. Mais pas d'EPS, donner des cours quand j'ai l'occasion à des licences, à des masters qui sont en management du sport, qui sont toujours un peu dans la filière STAPS, en entraînement sportif. Ça dépend des opportunités, des sujets. Mais non, j'ai terminé les cours d'EPS.
Et dans le milieu, du coup, sociologie autour du sport, est-ce qu'il y a beaucoup de branches ? C'est très développé, tu dirais, la tienne en particulier ou...
La sociologie du sport, elle a mis du temps à se développer par rapport à la sociologie générale. Donc aujourd'hui, c'est quand même une branche qui est à part entière, bien identifiée en France et un peu partout dans le monde. Ce qui a mis plus de temps à se développer et ce qui se développe encore, c'est la sociologie du sport appliquée au champ de la haute performance. On est quand même quelques Gaulois à s'y coller en France sur ce sujet-là. Et partout dans le monde, il y a de plus en plus de personnes qui travaillent explicitement sur le champ de la haute performance. Mais en tout cas, la sociologie du sport est aujourd'hui un champ qui est très bien identifié. Les thématiques sont diverses et variées. Elles s'intéressent aux interactions entre les personnes, aux organisations sportives, à leur fonctionnement. Je pourrais prendre peut-être 5-6 minutes à tous vous les citer. Mais ouais, c'est un champ qui est bien identifié et qui, en tout cas dans le champ de la haute performance aussi, prend de plus en plus de place. On avait pour habitude d'appliquer la haute performance à la biomécanique, à la physiologie, à la neurologie. Et puis maintenant, depuis une trentaine, quarantaine d'années, d'autres disciplines telles que la psychologie, la psychosociologie, la sociologie entrent un peu dans ce champ-là et donc font en fait que la performance est devenue un fait social à part entière.
Puisque la haute performance, c'est quelque chose qui attire, qui apporte des financements, par exemple ?
C'est quelque chose qui fait rêver, en tout cas, qui nous fait rêver toutes et tous. Quand on est de l'extérieur, je dirais, il y a de gros enjeux à travers la haute performance, des premiers enjeux qui sont sportifs, comme on a pu le voir au JO de Milan-Cortina, comme tu l'as dit. Il y a des enjeux sociétaux, de représentation d'une nation. Une nation qui est très performante à l'échelon international est une nation qui se porte bien. Et donc derrière tout ça, il y a...
En tout cas, c'est le message qu'elle envoie.
Il y a bien entendu des enjeux qui sont économiques, qui en découlent. Et donc il y a quand même des sommes d'argent assez importantes qui circulent dans ce champ-là, avec par contre des grosses disparités selon la discipline sportive, selon les événements, selon les pays notamment.
Et toi, du coup, qu'est-ce que tu étudies exactement dans la haute performance ?
Alors, j'étudie pas du tout les sportifs et les sportifs de haut niveau, mais mon intérêt, moi, il se porte sur toutes les personnes qui gravitent autour de près ou de loin, c'est-à-dire ce qu'on appelle les staffs. Et donc, dans ces staffs, il y a des personnes qui sont très, très identifiées, comme les entraîneurs, des personnes qu'on voit même à la télévision. Et derrière ces entraîneurs et entraîneureux, il y a en fait tout plein de monde qui travaille au quotidien et collectivement pour qu'à la fin, le sportif ou la sportive puisse obtenir cette médaille. Et donc moi, mon intérêt, il porte sur, tout ce collectif-là en tentant de prendre en compte tous ces métiers-là qui collaborent ensemble et en essayant de comprendre comment ces personnes-là sont arrivées où elles sont. Donc la question que je me pose est de savoir quelles sont les trajectoires de carrière de ces personnes qui ont, entre guillemets, réussi à atteindre des métiers qui sont prisés, dans lesquels on aurait envie d'aller.
Du coup, peut-être on va amorcer un petit peu ça. Est-ce qu'il y a des exemples que tu aurais de parcours, de profils un peu particuliers qu'on n'imagine pas
Derrière ces entraîneurs et entraîneureux, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de monde, mais il y a quand même des profils que j'aime raconter, en pensant notamment à une danseuse professionnelle qui travaille avec les meilleurs sprinteurs de 100 mètres au monde. Et donc, j'aime dire que ce n'est pas pour leur mettre des tutus, mais bien pour essayer de leur faire gagner quelques précieux centièmes en travaillant sur toute leur mobilité, en travaillant sur la sensation corporelle de tous les membres qui doivent aller très très vite. Et donc, c'est une collaboration qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années, je crois. Donc voilà, j'aime raconter l'exemple de cette danseuse et j'en ai d'autres sous le coude de métiers étonnants dans la haute perf.
Trop bien, on gardera ça pour la deuxième partie. Mais c'est vrai qu'on a du mal à imaginer Usain Bolt en tutu, comme ça. Ça fait un peu bizarre. Mais bon, merci beaucoup pour ces réponses en tout cas. Je propose maintenant à toutes et à tous une petite pause musicale. Il est l'heure d'attraper votre planche de surf et de filer sur la plage. Parce que sur la plage et dans le sable, la femme recherche des sensations. C'est sur la planche de la femme.
Thank you.
Et Lola nous a rejoint sur le plateau. Salut Lola. Et aujourd'hui, tu nous partages une chronique qui va nous faire un peu froid dans le dos, dans tous les sens du terme, sur les JO d'hiver et la neige artificielle.
L'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
Bon, alors je risque de casser un peu l'ambiance, donc accrochez-vous à votre tire-fesse, c'est parti. Les Jeux Olympiques d'hiver 2026, dont on a déjà un peu parlé, avaient l'ambition, d'après le comité d'organisation, d'être, je cite, « les plus responsables jamais organisés ». Pourtant, un rapport publié par les organisations Scientists for Global Responsibility et New Weather Institute estimait des émissions à hauteur de 930 000 tonnes équivalent CO2 pour ces Jeux. Ce qui entraînerait, toujours d'après le rapport, une disparition de 2,3 km² de couverture neigeuse et la fonte de plus de 14 millions de tonnes de glace. En bref, les Jeux d'hiver mettent en péril la neige dont ils dépendent. Enfin ça, c'est sans compter sur notre sauveuse, la seule, l'unique, la bien nommée neige artificielle. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, son utilisation ne date pas d'hier. C'est en 1980 qu'elle a été utilisée pour la première fois au JO de Lake Placid aux États-Unis. Et depuis, son utilisation monte en puissance, au point que l'édition de Pékin en 2022 a été la première à s'appuyer entièrement dessus. Et cette année en Italie, d'après les organisateurs, c'est 1,6 million de mètres cubes de neige qui ont été fabriqués. Alors j'ai fait mes petits calculs pour vous donner une idée, mais en gros, ça correspond à environ 640 piscines olympiques.
Oh waouh!
Et pour produire tout ça, il faut de l'eau. Beaucoup. En moyenne, 1 mètre cube d'eau pour obtenir 2 mètres cubes de flocons. Donc on construit des retenues et on pompe dans les rivières. Mais ce n'est pas un souci pour l'organisation des JO, puisque d'après elle, la neige artificielle uniformise les conditions des épreuves. Ne plus l'utiliser pourrait, selon eux, aboutir à des annulations ou à des conditions dangereuses pour les athlètes.
Et les athlètes, ils se sont manifestés à ce sujet ou pas, franchement ?
Eh bien, les sportifs et les sportives sont en plein paradoxe. D'un côté, ils ont conscience des conséquences du changement climatique. Ils en sont même aux premières loges. Mais de l'autre côté, accepter l'impact des Jeux serait en quelque sorte renoncer à ce pourquoi ils s'entraînent toute leur vie. Et surtout, ils ne condamnent pas la neige artificielle, parce qu'ils y sont habitués. Certains sont même un peu tristounes quand des flocons tombent du ciel avant leurs épreuves. Car la neige naturelle, en plus d'altérer la visibilité, s'avère plus collante et a tendance à freiner un petit peu la glisse. Pas top pour le chrono. Donc si l'utilisation de la neige artificielle questionne, c'est aussi un peu le sapin qui cache la forêt. Parce que les sponsors par des grands pollueurs, l'artificialisation des écosystèmes montagnards pour construire des infrastructures, et surtout le transport des spectateuristes, sont les plus grandes sources d'émissions des Jeux.
Et bah, grosse ambiance. Et du coup, on fait quoi? On annule les Jeux Olympiques d'hiver ou on continue? On fait quoi?
C'est une question qui peut se poser. Faut-il arrêter ou limiter ces sports d'hiver pour qu'ils continuent d'exister à l'avenir? En tout cas, ce serait le moment de réinventer ces événements. Parce que si les locaux et certains athlètes semblent prêts à réformer radicalement les épreuves d'hiver, le comité d'organisation des Jeux, lui, semble encore préférer le profit, quitte à foncer tout chousse dans le mur.
Pas mal. Merci pour ta chronique, Lola. Et comme diraient les boomers, à méditer. On repart sur l'interview avec la deuxième partie. Et je voudrais revenir sur un terme dont on a entendu parler tout à l'heure. Rémi, c'est quoi exactement la haute performance sportive?
Alors, c'est un terme qui est assez vaste. Elle désigne en premier lieu l'obtention... Enfin, la haute performance sportive désigne en premier lieu les sportifs et les sportives de haut niveau. Donc, on dit que ces personnes-là évoluent dans la haute performance sportive à partir du moment où elles ont un niveau de performance qui est à minima international, voire olympique. Mais la haute performance sportive, c'est aussi tout un ensemble de personnes, au-delà de ces athlètes, de personnes qui les entourent, d'organisations qui contribuent au développement et à l'optimisation de cette performance-là. Donc en fait, il y a ce qu'on voit nous à la télé comme au JO de Milan Cortina. Et puis derrière, il y a tout un écosystème de la haute performance sportive qui permet d'arriver à un tel niveau de performance.
Est-ce qu'il y a une forme de porosité, on va dire, entre certains sports, du staff qui va transiter d'un sport à l'autre ou...
En termes de métiers, il y a des métiers qui sont transversaux, qu'on retrouve dans toutes les disciplines. On parle notamment des entraîneurs, même si chaque entraîneur a ses compétences. Mais il y a par exemple les métiers médicaux, paramédicaux, qui évoluent avec plusieurs disciplines sportives, voire avec plusieurs staffs. Après, il y a des métiers qui sont vraiment très spécifiques à certains sports. On peut faire référence aux cordeurs dans les sports de raquettes, aux farteurs dans les sports de glisse, aux écuyers dans le sport d'équitation, aux constructeurs d'épée dans les sports liés à l'escrime, dans les trois disciplines.
Plutôt stylé.
Donc voilà, là on rentre un peu plus dans le sujet. Mais globalement, il y a quand même une grande majorité de métiers qu'on retrouve un peu dans tous les staffs, quelle que soit la discipline sportive. On a une partie liée à l'entraînement technique, une partie liée à l'entraînement physique, une partie liée à la nutrition, à la préparation mentale. De plus en plus, les staffs se structurent. On a des personnes qui sont dites sport scientists ou data analystes, des personnes voilà, qui permettent de tout analyser lors des entraînements, voire même lors des compétitions, et qui reviennent sur ces données-là en les partageant aux entraîneurs, aux préparateurs physiques. Et puis au-delà de ça, des métiers paramédicaux, kinés, les médecins, des staffs. On a des personnes qui sont là pour la logistique, parce que tout ça, c'est quand même un petit engrenage à devoir gérer. Donc il y a, en tout cas au niveau olympique maintenant, des personnes chargées de la logistique en préparation, pendant et puis derrière. Enfin, c'est assez vaste, ouais. C'est assez passionnant.
D'ailleurs, c'est un peu l'exemple que tu donnais tout à l'heure sur la danseuse étoile qui travaille avec des sprinteurs. C'était quoi ? C'était un savoir-faire technique qu'elle passait, quelque chose
Oui, danseuse ouais, professionnelle, alors qui ne s'est pas retrouvée là directement, qui avait eu des premières collaborations dans le champ de la haute performance avec des disciplines qui étaient plus artistiques. Donc là, on pouvait faire plus facilement le lien et globalement, ça étonnait un peu moins les gens. Et puis finalement, il y a un entraîneur d'athlétisme qui un jour est venu la voir en lui disant « Mais moi, je suis persuadé que là, ce que tu fais avec tes athlètes, et ben, si tu prends les miens et qu'on travaille un petit peu ensemble, on définit le truc, tu peux leur apporter quelque chose. » Donc son premier retour a été lui dire « Mais en fait, non, t'es complètement fou. Qu'est-ce que je vais faire en 100 mètres ?» quoi. Et puis, ça l'a interrogé. Et puis, ils ont commencé à collaborer. Et puis, la voilà maintenant depuis 20 ans aux côtés de ces sprinteurs-là. Ouais.
Et ça a commencé comme ça. Du coup, c'est des entraîneurs ou entraîneuses qui vont chercher ces métiers de l'ombre, ouais. Ou c'est dans l'autre sens aussi parfois. C'est des gens qui viennent promettre qu'ils pourraient peut-être aider les athlètes.
Dans son cas, elle, c'était voilà, dans le sens, l'entraîneur fait appel à ses compétences, en gros. Après, il y a des métiers de l'ombre, mais qui sont indispensables à certaines disciplines. Je peux faire référence à un réparateur de canoë kayak qui est obligé en fait, d'être là pendant toutes les descentes lors des Jeux Olympiques, parce qu'il y a forcément des pètes, etc. Donc ça, on appelle ça un métier de l'ombre, parce que ce n'est pas un métier qu'on voit nous couramment, mais c'est des métiers qui sont quand même indispensables. Et donc, dans ce cas-là, c'est peut-être plus facile d'intégrer les staffs de la haute perf.
Parce que c'est un milieu qui est quand même assez fermé, très secret, avec des secrets, on pourrait presque dire, industriels, de performance. Ça ne va pas être simple de rentrer dedans. Je suppose qu'en ton cas, en tout cas, je ne sais pas comment tu as fait pour...
Alors, moi, je ne suis pas directement dans ces staffs-là et j'ai un petit peu plus de recul et je les étudie, mais en tout cas, de ce que me disent les personnes que je rencontre, c'est un milieu très, très secret, très exigeant aussi, une fois qu'on y est. En gros, il y a des choses qui se jouent. On parlait d'enjeux économiques, on parlait d'enjeux sportifs, d'enjeux sociétaux liés à la haute performance. C'est vrai que si une nation trouve quelque chose qui la rend vraiment meilleure face aux autres, et elle n'aura peut-être pas envie de le divulguer à tout le monde et de remporter quelques médailles en attendant que les autres trouvent la solution. Quoi. Donc il y a ce truc-là. Et y entrer est très difficile. S'y insérer professionnellement dans ces staffs, c'est très difficile. Mais une fois qu'on y est entré, tout n'est pas fait. Y perdurer longtemps, c'est tout aussi difficile. Et d'ailleurs, il y a un phénomène de turnover qui est très fréquent dans les staffs de la haute performance et qui est bien plus important que ce qu'on pourrait retrouver dans des champs un peu plus classiques du monde du travail. Quoi.
Parce que j'imagine qu'il faut être 100% performant tout le temps, en fait.
Il faut être 100% disponible, oui. Performant la plupart du temps. mais ouais, y a vraiment cette notion de surdisponibilité à toute épreuve qui est partagée par... par la très grande majorité des personnes avec qui je me suis entretenu. Il faut se rendre compte qu'il y a des compétitions qui sont aux quatre coins de la planète et donc que ces personnes-là se doivent de suivre et ne pas suivre comme nous on le fait à la télé, elles se doivent de le suivre au bord du terrain, voilà, quand c'est un terrain. Donc c'est des personnes qui parfois passent la moitié de l'année en dehors de leur résidence familiale, quoi. Donc ça demande aussi une acceptation de ces conditions de travail-là. Alors c'est des personnes qui, globalement, sont au courant et qui les tolèrent. Parce que pour se maintenir, de toute façon, tu n'as pas d'autre choix que d'accepter de ne pas être chez toi la moitié de l'année, quoi. Et quand tu es là, T'es pas là les week-ends non plus, parce que souvent il y a des compétitions, enfin, en tout cas dans le cadre de sport collectif par exemple. Bon, ça donne envie, mais et voilà, faut y aller derrière. Mais c'est voilà, des métiers passion. Il y a cette notion de vocation, j'ai toujours voulu faire ça. Alors c'est pas tout le temps le cas, il y a aussi des personnes qui s'y retrouvent un peu par hasard, par opportunité, etc. Mais c'est des métiers passion, et cette passion-là, elle a tendance à prendre le dessus sur les aspects négatifs de ce que peut représenter le travail dans la haute perf, quoi.
Et du coup, il y a autant de sacrifices que de la part des sportives et sportifs, finalement, sur la disponibilité, quoi.
Alors, je pourrais pas te dire plus ou moins, voilà, mais en tout cas, ouais, ce qui est sûr, c'est que les sportifs et les sportifs de haut niveau ou professionnels doivent faire des sacrifices qui sont énormes pour avoir ce niveau de performance-là. Mais derrière eux, il y a aussi des personnes qui sont là, H24, justement pour que leur petit poulain ou leur petite poulette puisse être sur le devant de la scène. Quoi.
Et toi, tu t'es retrouvé dans une situation pour ta thèse, à devoir être à je ne sais pas quelle heure à l'autre bout de la ville ou du pays pour suivre quelqu'un ?
Alors, pour mener mes quelques études de thèse, j'ai dû rencontrer ces professionnels-là. Et pour rencontrer ces professionnels-là, il faut se mettre à leur disposition. Globalement, on sait qu'on a une cartouche. Il va nous dire, voilà, moi, je suis dispo pour réaliser l'entretien entre 10h et midi. Là, c'est parfait. Si c'est à 21h ou 22h, parce que la personne, au moment où on lui parle, elle est à l'autre bout de la planète, et avec le décalage horaire, ça tombe là. Et on y va, on se connecte, en tout cas quand c'est en visio. Et puis après, se déplacer pour les rencontrer, ça, j'ai eu à le faire aussi. Mais je ne suis jamais sorti du territoire métropolitain non plus. Il y a la visio maintenant, c'est cool.
Ouais. Ah oui, c'est cool. D'ailleurs, question purement méthodologique, vu que tu fais sociologie, milieu du sport, tu sais quoi ta méthode pour récolter des données ? Entretien, stats, observation ?
Majoritairement pour moi, des entretiens. On peut aussi faire de l'observation après dans mon cas, je ne serais pas amené à en faire, en tout cas dans le cadre de ma thèse. Ça aurait été intéressant d'observer les staffs en situation pour récolter d'autres données, d'autres questions. Mais moi, c'est majoritairement des entretiens. Globalement, je leur demande qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là et comment vous fonctionnez ensemble. Après, je transmets aussi, je construis et transmets des questionnaires pour essayer de toucher le plus grand nombre de professionnels possible à l'échelle française, et à partir des données qu'on récolte, les entretiens, on est capable d'en faire que 30 ou 40 seuls. Les données qu'on récolte, on est capable de toucher des centaines de gens directement. Alors on a moins d'infos, mais on récupère quand même des données intéressantes qu'on peut traiter derrière, statistiquement, et obtenir des tendances de carrière, de conditions de travail, de ce que vous faites, de diversité des métiers. Donc principalement les deux méthodes mobilisées pour répondre à la petite question à laquelle je me pose.
Parce que aussi, question purement pratique, mais vu qu'il y a de la compétition entre les gens, tu as dit que c'est difficile de se maintenir dans le milieu longtemps. Il y a peut-être une absence un peu de volonté de partager avec toi justement des moments d'entraînement ou des méthodes peut-être.
Je ne leur demande pas directement des méthodes d'entraînement qui permettent d'optimiser la perf. Je leur demande plutôt de se raconter eux et elles. Le fun fact, et ce à quoi on ne s'attendait pas trop, quand je dis « on », ce sont mes directrices de thèse et moi, c'est que ces personnes-là, notamment parce qu'elles sortent un peu de la lumière qui est majoritairement donnée à quelques personnes et qu'on va fouiller un petit peu dans les métiers de l'ombre, sont vraiment plutôt partantes pour se rencontrer parce qu'elles n'en ont pas vraiment l'opportunité. Or, elles existent et elles participent tout autant à produire, à optimiser cette performance-là. Je ne vais pas dire que c'est leur faire un cadeau, mais on a essuyé quand même par rapport au nombre de demandes, peu de refus. Et on a réussi à rencontrer la majorité des personnes avec qui je souhaitais m'entretenir, quoi. Donc ils restent disponibles quand même pour ce genre d'études, et ça c'est cool.
Il y a des métiers justement du coup que tu as rencontrés que tu n'imaginais pas avant de les rencontrer ou en faisant la thèse, tu as découvert ?
Eh bien, je vous ai parlé de la danseuse, je vous ai parlé du réparateur. On pourrait se dire, la question pourrait être rigolote à la base, que font ensemble une danseuse, un réparateur, un médecin spécialiste du sommeil, rentre dans un bar. Il y a globalement plein de métiers que j'ai appris à découvrir et que j'essaie aussi maintenant de partager. Parce que moi j'ai pris du temps à l'apprendre parce que je suis allé chercher l'information. Donc maintenant, j'aime à partager ces informations-là pour que les personnes se disent « Ah ouais, En fait, c'est cool, quoi. Et ça s'apparente... l'image qu'on peut donner très rapidement et qui parle aux gens, c'est le monde de la culture et notamment celui du spectacle vivant. Donc vous vous rendez, j'ai eu la chance de le faire dernièrement sur des comédies musicales. Voilà, vous prenez votre place. Bon, ça coûte un bras, mais ça, c'est autre chose. vous vous asseyez et puis vous voyez en fait des artistes sur scène qui brillent, qui rendent la lumière, qui chantent, et c'est magnifique. Mais en fait, derrière, il y a un espèce de monde entier de personnes qui se coordonnent au quotidien. Et ben, dans la haute performance, on pourrait faire le parallèle, quoi.
Parfait. Ben pendant qu'on parle de haute performance sportive, je crois qu'Anna nous a préparé un petit quiz sur les JO, histoire de nous tester un tout petit peu et voir si on suit l'actu. Anna, c'est à toi.
Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
Bonsoir à tous. Alors dans le petit jeu que je vais vous proposer aujourd'hui, on va continuer de parler de haute performance, qu'elle soit sportive ou d'un autre type, vous allez voir. Je ne sais pas si vous êtes aussi accro au réseau que moi, mais j'ai été assaillie d'édits et de même des JO. Et vraiment, le village olympique, ça a l'air aussi divertissant que la nouvelle saison de l'île de la Tentation, j'adore. C'est donc un caps ou pas caps, 100% JO d'hiver que je vous propose. Le principe est simple, répondre aux questions de mon petit quiz. Pour plus de simplicité et aussi parce qu'on s'aime tous dans le studio, on va dire que ce jeu est collaboratif. Et je pense que c'est mieux pour vous, parce que à part la question qui porte sur des préservatifs, je ne sais pas si Thomas aurait su répondre. Bref, assez parlé, commençons.
Calomnie.
Ces jeux ont encore une fois été marqués par l'époustouflante performance de la skieuse acrobatique Hélène Guyou. Celle-ci repart de la compétition avec quelques médailles en poche, mais ça lui en fait combien là, au fait? Alors je vous écoute, combien Hélène Guyou a-t-elle de médailles olympiques à ce jour?
En tout, dans toute sa carrière?
Dans toute sa carrière.
5.
Médaille d'or?
Non, toutes les médailles.
Toutes les médailles, ok.
Je ne sais même pas combien il y a d'épreuves.
11. 8.
Eh bien, 7. C'était 6. Aucune bonne réponse. Vous êtes nuls.
Allez, on n'est pas plus
Et avec ses 6 médailles, dont 3 en or et seulement 2 éditions, en seulement 2 éditions des JO, Guyou est désormais la skieuse acrobatique la plus décorée de l'histoire des Jeux, tout genre confondu. On n'hésite pas à rappeler qu'elle est aussi étudiante plein temps à Stanford en relations internationales, avec en plus des cours de physique quantique, parce que pourquoi pas, elle est aussi mannequin, chanteuse, pianiste, et le plus dingue, c'est qu'elle dit qu'elle arrive à dormir 10 heures par nuit. Voilà, voilà. Tout ça, seulement 22 ans d'ailleurs. Et vous, vous en êtes où?
Tout pareil.
Voilà,
j'ai 26 ans. Voilà.
Tout pareil aussi. Donc, passons à la prochaine question. Une autre prestation qui a fait le tour des réseaux, c'est celle de la patineuse artistique Alyssa Liu, qui est venue totalement briser les codes, ou plutôt la glace. L'américaine revenait tout juste d'une pause dans sa carrière, celle-ci a accepté de revenir dans la course seulement sous ces conditions. Elle affirme « Plus jamais personne ne me privera de nourriture et personne ne me dictera ce que je dois faire. » Si elle est aujourd'hui revenue sur la glace, c'est avant tout pour s'amuser et ça, on l'a merveilleusement vu. Après avoir remporté la médaille d'or du patinage libre, l'athlète a été conviée à clôturer les Jeux lors du gala traditionnel. Alors, sur quelle chanson Alyssa Liu a-t-elle réalisé sa performance qui clôturait le gala à Milan?
Je suppose qu'il n'y a pas de QCM. Je vois les gens du studio qui dansent, donc je dirais un truc jeune.
Attends, j'ai un doute. Est-ce que c'est... Zara Larsson ou Dua Lipa? Non, Zara Larsson.
Oui, bien joué. J'avoue que celle-là était un peu compliquée et seulement un tout petit peu biaisée par ma nouvelle obsession qui est Zara Larsson, mais la réponse était bien Stateside de Pink Panthers en feat avec la reine Zara. Je vous remets un petit extrait. Oui, un gros banger, je sais. Passons à la prochaine. Comment l'athlète de snowboard Jessica Perlmutter a-t-elle cassé son téléphone? Pour celle-ci, je vous propose 3 options. 1. En le faisant tomber sur le podium alors qu'elle voulait prendre un selfie. 2. En le jetant par terre d'énervement après sa course. 3. En le faisant tomber de sa poche alors qu'elle était en plein run pour la finale de Slopestyle.
Je crois que Rémi a la réponse, non?
On me l'a un petit peu soufflé à l'oreille, mais je dirais réponse 3.
Non, bizarrement, c'est ça. Effectivement, c'était bien pendant la finale de Slopestyle. En plein sur le halfpipe, son téléphone a glissé de sa poche et est venu s'éclater par terre. Elle voulait simplement écouter de la musique pendant sa course, en fait. Et on comprend, meuf. Bon, malheureusement, elle n'a pas terminé la course, puisque comme son téléphone, elle est aussi tombée. Mais on souligne quand même qu'elle n'a que 16 ans et qu'elle était donc la plus jeune athlète de sa catégorie et la plus jeune américaine à atteindre une finale de Slopestyle.
Après, elle avait un téléphone à 16 ans, quand même.
Et vous, à 16 ans, vous faisiez quoi, en fait?
J'avoue. Elle n'était pas cassée, elle, c'est bon?
Non, c'est bon, elle va bien. Elle a terminé la course en souriant et en riant.
Il fallait la mettre dans du riz, c'est comme le téléphone.
Alors, lors des qualifications de l'épreuve féminine de sprint par équipe, qu'est-ce qui est parvenu à se frayer un chemin sur la piste et à concourir avec les athlètes? Réponse A, un chien loup. Réponse B, un enfant. Réponse C, une luge jetée par inadvertance par des passants.
Mon préféré des trois, chien-loup.
Ouais, le chien-loup.
Ouais, c'était bien ça, c'était le chien-loup. Leur propriétaire était parti tranquillement regarder les jeux et leur chien-loup nommé Nazgûl, je ne sais pas trop comment on prononce, s'est échappé et a voulu les retrouver. Les propriétaires ont réalisé que c'était leur chien seulement en regardant les vidéos qui commençaient à circuler sur le net. Alors très inquiétés, ils se sont précipités pour venir le retrouver. Ils ont eu le droit à de belles retrouvailles et le chien est devenu une vraie star des réseaux. Passons à la suite. Sur quel sujet s'est exprimée la patineuse Amber Glenn concernant les difficultés d'être une femme au JO ? Oui, je vous avais prévenu, les questions sont assez compliquées. J'avais surtout envie de parler des femmes et de leur prouesse, qu'elles soient sportives ou plus de la vie de tous les jours. Pour vous aider, trois propositions. Première option, elle a parlé des jupes trop courtes. Deuxième, d'avoir ses règles pendant les routines. Troisième, le manque de reconnaissance du sport.
Les trois ?
Moi, je sais.
Les trois, je dirais.
Elle a parlé de ses règles, non ? Ou les trois ?
Eh bien, écoutez, elle va nous le dire puisque j'ai un extrait à vous faire écouter.
J'ai mes règles en ce moment, donc c'est vraiment très difficile, surtout quand on porte ce genre de vêtements et quand on doit être performante devant le monde entier. C'est dur et personne n'en parle.
C'était un peu des deux, mais elle parlait majoritairement le fait d'avoir ses règles. Et du coup, on espère que tout ça va changer. Et dernière petite question pour terminer. Combien de préservatifs ont été écoulés au sein du village olympique en seulement quelques jours ?
Apparemment, j'ai en trois jours, pardon. Hein, mais
je
c'est
sais
okay.
pas, mais
je crois que c'était 15 000.
8 000 ?
C'était 15 000, je crois.
Oh, toi, t'es un peu marseillais par contre là. C'était 10 000. Ils sont 2800 athlètes, donc bah, je vous laisse faire le calcul. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, le comité a vite refait les stocks et tout semble aller pour le mieux au village. Je crois que ce sera vraiment mon rêve d'avoir une télé-réalité sur ce qu'il se passe là-bas.
Ils ont fait une bataille d'eau.
Sans doute, ça doit être ça.
Elle est si innocente,
j'adore ça.
Voilà. C'est tout pour moi, merci beaucoup.
Excellent ton caps ou pas caps, Anna, et un grand merci pour la balle perdue. Bon, restez ici, on va finir par avoir les jambes qui démangent, et pour cette petite pause musicale, et si on allait courir tout en haut d'une colline, c'est Running Up That Hill, A Deal With God de Kate Bush.
It doesn't hurt me, yeah, yeah, yeah.
Et sur notre plateau, nous retrouvons enfin Jade qui a fait son apparition pendant que Kate Bush nous mettait la larme à l'œil et que j'ai réglé mes comptes avec Anna. Et seulement, Jade aimerait dédicacer une petite chronique en l'honneur d'une athlète qu'elle apprécie tout particulièrement, mais elle vous en parlera bien mieux que moi. Alors, à toi Jade.
Il y a des athlètes qui gagnent, et puis il y a ceux qui marquent leur époque. Chloé Kim fait partie de cette catégorie. C'est une snowboardeuse exceptionnelle. Et moi, en tant que grande passionnée, et qui pratique deux fois par an, je vais essayer de vous en parler du mieux que possible. Née le 23 avril 2000 à Long Beach, en Californie, elle montre très tôt qu'elle n'est pas une rideuse comme les autres. À seulement 17 ans, elle entre dans l'histoire aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018. Sur le halfpipe, elle impressionne le monde entier. Elle devient la première femme à réussir 2080 degrés, soit 3 tours complets dans le même run olympique. Résultat, médaille d'or. Mais alors, c'est quoi un halfpipe ? C'est un immense demi-tube de neige, long d'environ 160 à 200 mètres, avec des murs qui peuvent atteindre presque 7 mètres de haut. Les parois sont très raides, presque verticales. En gros, la vitesse vient de la gravité, mais aussi d'un mouvement appelé pumping. Le rider fléchit et tend ses jambes dans la courbe du pipe pour générer de l'accélération. Pour réaliser un 1080, donc 3 tours entiers, le rider doit se compacter en l'air, utiliser ses épaules pour initier la rotation, puis déployer ses jambes avant l'atterrissage, pour ralentir la rotation et stabiliser la réception. En 2022, aux Jeux Olympiques d'hiver, la pression est immense, elle est attendue comme la grande favorite. Pourtant, elle s'impose encore et remporte une deuxième médaille d'or olympique. Les performances sportives augmentent sans cesse, les athlètes ont aujourd'hui un entraînement plus scientifique, un meilleur suivi physique et mental, et un matériel plus performant. Les infrastructures du halfpipe ont elles aussi évolué. Pour rester sur la paroi et changer de direction, le snowboarder utilise l'accélération centripète, qui le maintient contre la courbe du halfpipe. Plus la vitesse est grande et plus le rayon du mur est petit, plus la force centripète nécessaire est élevée. Les ingénieurs ont travaillé sur des halfpipes pour optimiser cette force. Les murs sont devenus plus hauts et les transitions plus régulières, ce qui permet aux riders de générer plus de vitesse, de monter plus haut, rester plus longtemps en l'air et réaliser des figures plus complexes. La combinaison du talent de l'athlète et la conception du halfpipe permet aux performances de progresser constamment. Mais Chloé Kim ne se résume pas à ses médailles. Elle fait une pause dans sa carrière pour étudier à l'université de Princeton. Elle parle aussi ouvertement de santé mentale et de la pression médiatique. En 2026, lors des Jeux Olympiques d'hiver, elle arrive blessée à l'épaule avec une luxation et une lésion du labrum. Elle n'est pas à 100% de ses capacités, elle ne décroche pas un troisième titre olympique consécutif, mais elle remporte tout de même la médaille d'argent. À seulement 20 ans, Chloé Kim est déjà devenue une légende de son sport, incarnant le mélange parfait entre talent et travail acharné. Elle montre aussi que derrière les exploits, il y a du travail, des doutes, des blessures et une grande force mentale. Elle ne fait pas que gagner, elle inspire.
Merci Jade. Et pour continuer sur le sujet des sportifs de haut niveau, je vous propose de reprendre l'interview. Rémi, en faisant un peu de stalking professionnel, on lit sur notre page « Le monde sportif connaît une féminisation lente et irrégulière, mais leur nombre diminue lorsque le niveau de responsabilité augmente. » Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet ?
Est-ce que le plafond de verre vous parle ?
Oui. Pas directement, mais ouais.
Peut-être le
notions,
rappeler.
Voilà, des notions que vous avez peut-être entendues sans trop... aller fouiller, mais en gros, l'idée est de dire que il y a un certain niveau au-dessus duquel les femmes ne peuvent pas aller, en tout cas dans le monde professionnel, qu'elles sont cantonnées à ce niveau-là. Et le plafond de verre, en gros, il n'échappe pas au monde sportif, pas du tout, voire même il se renforce avec les spécificités du monde sportif. L'idée, c'est qu'il y a des ségrégations qui sont verticales. Les postes les plus prisés, ou en tout cas les postes avec le plus de responsabilités, sont majoritairement réservés aux hommes. Et il y a aussi une ségrégation qui est dite plus horizontale, où en fait, à un même niveau de responsabilité, on va plutôt retrouver des femmes dans les postes qui sont à connotation féminine, et on va plutôt retrouver des hommes dans les postes qui sont à connotation masculine. Le problème étant que ces postes à connotation masculine sont à un même niveau, souvent aussi les plus prisés. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, et donc c'est pas... Il n'est pas évident, en tout cas, si on ramène ce sujet-là au métier des staffs, il n'est pas évident pour une femme de faire carrière dans les staffs de la haute performance sportive, mais il y en a quand même plein qui évoluent au quotidien et depuis assez longtemps. Et les choses bougent, ça c'est cool.
Donc ce n'est pas juste les sportifs, c'est vraiment le staff autour des sportifs.
c'est les sportives aussi qui sont concernées par d'autres phénomènes. Voilà, on parle de violences sexistes et sexuelles. Les staffs le font aussi, voilà, bon, certainement. En tout cas, moi, j'en ai pas rencontré, mais c'est des phénomènes qui sont sociétaux, quoi. Après, s'insérer dans les métiers de la haute performance, globalement, c'est difficile pour tout le monde. C'est des métiers qui sont très prisés, très exigeants. Mais les femmes doivent faire face quelquefois à certaines barrières supplémentaires, donc qui les freinent ou qui leur permettent d'aller moins vite ou moins haut. D'autres aussi connaissent des trajectoires qui sont tout à fait linéaires, ascendantes, quand d'autres hommes connaissent des barrières qui leur permettent d'aller moins vite ou moins haut. Voilà, il n'y a pas de règles, ce sont des tendances, et ces tendances-là concernent majoritairement les femmes.
Et est-ce que tu as observé, parce que tout à l'heure tu parlais aussi de stratégies pour rester dans le milieu en fonction des profils, est-ce qu'il y a des stratégies par exemple mises en place par les femmes ou qui ne s'appliquent qu'à elles pour rester dans le milieu ?
De ce que j'ai observé moi dans mes recherches, c'est que globalement, le plus gros point de comparaison qu'on pourrait faire entre les femmes et les hommes, c'est que les hommes ont davantage de réseaux qui leur permettent de s'insérer, de progresser, etc. Les femmes en ont moins, mais surtout au début de leur carrière professionnelle, ces réseaux-là, elles parviennent à les construire, mais souvent avec plus de temps, en tout cas de ce que j'ai observé moi et de ce que j'ai analysé. Donc, elles doivent s'appuyer sur d'autres ressources individuelles pour s'insérer, perdurer, donc on dit faire carrière. Et ces ressources-là, ce sont notamment des niveaux de diplôme qui sont assez élevés, des formations continues tout au long de leur carrière pour prouver leurs compétences, quand bien même elles n'auraient plus à le faire. Elles s'appuient majoritairement sur cette formation initiale, cette formation continue, et puis ces réseaux qui se créent au fil du temps, ces mentors, ces sponsors qui leur permettent aussi de faire carrière. Après, le point vraiment positif, les choses bougent, et là, les choses dont on parle concernent notamment les entraîneurs, les métiers d'entraîneurs, entraîneurs, qui ont été beaucoup, beaucoup investigués. Et moi, en décalant un peu la focale et en m'intéressant à une plus grande diversité de métiers, je vois que ces barrières-là, elles sont parfois différentes, parfois moins importantes. Donc finalement, de voir l'expansion des staffs de la haute performance, de plus en plus de personnes qui travaillent au quotidien au service d'une perf, c'est aussi dire qu'il y a plein de nouvelles opportunités pour les femmes, pour les hommes, pour toutes celles et ceux qui rêveraient et souhaiteraient s'y insérer.
Bah, tout à l'heure, on avait dans les shots à l'invité des questions là-dessus. Est-ce que tu as des exemples de choses que tu as vues, entendues, des situations justement comme ça d'inégalité ?
Alors j'en ai entendu pas mal. Il y en a qui sont assez classiques, que vous avez déjà dû entendre et un peu partout, voire même subir. Mais peut-être relater un propos qui m'avait un peu choqué, et en plus en déplaçant la focale. Donc ce que je vais vous raconter, c'est un propos d'homme.
Surprenant.
Oui, mais en fait, j'avais tendance à rencontrer des femmes, mais qui ne me parlaient pas forcément des problèmes qu'elles pouvaient avoir. Ce qu'on peut dire de ça aussi, c'est que ces personnes-là qui sont dans la haute performance aujourd'hui, c'est des personnes qui ont réussi. Et donc ces personnes-là qui ont réussi, elles ont pu avoir des mécanismes un peu de détournement de ces barrières-là. Donc il serait intéressant de rencontrer des personnes qui sont entrées, puis qui sont ressorties pour X ou Y raison. Moi, dans le cadre de ma thèse, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais là, cet homme-là me racontait en fait qu'il n'était pas dispo, qu'il bougeait énormément la moitié de l'année en dehors de son domicile familial. Quand il rentrait beaucoup avec les joueurs, les joueuses, avec le staff. Et donc finalement, que quand il arrivait chez lui, peut-être, je ne sais pas, quelques jours par mois ou tous les deux mois, c'était faire offrande donc à ses enfants et à sa femme de sa présence. Et donc c'est dire à quel point, parce que c'est dit de façon complètement décomplexée, c'est dire à quel point en fait, des fois les inégalités, on les intériorise un petit peu et puis on ne se rend pas compte que ce qu'on dit c'est complètement sexiste et qu'en fait la charge de travail et la charge familiale elle revient à la femme pour gérer toute la famille, quoi.
Ouais, malheureusement je pense qu'il y aura encore un peu de chemin à faire.
Mais les choses bougent.
Les choses bougent.
Finissons sur du positif.
On arrive maintenant à la fin de cette émission. Je voudrais remercier toute l'équipe de nos grands fans de sport pour ce numéro très réussi. Merci à toi Rémi d'avoir été disponible et d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Un grand merci à Jocelyn, à Héloïse, à Anaïs, à Lola, à Anna, à Jade, à Emma, à nos spectateurs, nos spectatrices, à nos auditeurs, nos auditrices. Et pour vous sur les ondes, rendez-vous de l'Happy Hour scientifique vers la fin mars. L'émission sera disponible en streaming dans les jours à venir. Donc d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux @HHScientifique et de nous faire un bon marathon de toutes les émissions précédentes sur votre plateforme de streaming préférée. Très bonne soirée à vous.
Merci Thomas.
Bisous.
Bon, bah, y a messieurs, hein. À la prochaine. Et au revoir. Et puis, faut bon retour, hein. Au revoir, messieurs.